Merci Mariam et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
On me conduit devant le peloton d'exécution. Le temps s'étire, chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J'ai 28 ans. En face de moi, la mort a le visage des 12 exécutants. L'usage veut que parmi les armes distribuées, l'une soit chargée à blanc. Ainsi, chacun peut se croire innocent du meurtre qui va être perpétré. Je doute que cette tradition ait été respectée aujourd'hui. Aucun de ces hommes ne semble avoir besoin d'une possibilité d'innocence. Ainsi commence le nouvel livre d'Amélie Nothomb, intitulé « Premier sang ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Brigitte Fontaine, « Je suis inadaptée ».
Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été, salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés à garder les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les poses qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant, c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadaptée. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y'a pas de quoi rire. Je suis inadaptée. Je suis inadaptée.
Pourquoi, Amélie Nothomb, avez-vous voulu vous suicider à l'âge de 4 ans?
À l'âge de 4 ans, j'ai découvert la bouche des carpes. Et la bouche des carpes est le spectacle le plus répugnant que j'ai vu de ma vie. Je pense en particulier à la bouche des carpes quand elles viennent à la surface, quand on les nourrit, quand on leur jette leurs granules. On voit leurs espèces de bouches infectes qui s'ouvrent comme ça et qui viennent bouffer les granules. Or, justement, à 4 ans, au Japon, c'était à moi de nourrir les carpes dans les temps du jardin. Et à bout de dégoût, j'ai décidé d'en finir. Je ne pense même pas que je voulais vraiment mourir. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne voulais plus voir la bouche des carpes en train d'avaler leurs granules. Et comme je savais qu'il y avait moyen de se tuer dans l'eau, puisque je me noyais une fois par semaine, je me suis laissée tomber dans la dans l'étang où je nourrissais les carpes et j'ai attendu la mort.
Et vous auriez pu l'attendre longtemps et mourir puisque la jeune femme qui était censée s'occuper de vous n'a pas voulu vous porter secours.
C'est-à-dire que c'était encore le Japon du passé, le Japon traditionnel, et on considérait, avec raison d'ailleurs je crois, à cette époque, que sauver la vie de quelqu'un, c'était pas quelque chose qu'il fallait faire, parce que ça faisait de la personne qu'on sauvait votre esclave à vie, donc il valait mieux laisser mourir la personne.
Heureusement, votre mère n'était pas loin.
Donc ma mère, qui elle est belge et n'a pas de telle valeur, est venue me sauver.
Avoir la peau blanche quand on était une petite fille, ça pouvait vous porter préjudice ?
J'étais à l'école japonaise et j'étais la seule blanche, ce qui fait que lors de l'une des récréations, on m'a retrouvée ensevelie sous tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée pour voir si j'étais blanche partout. Il a fallu dégager le corps de tous les enfants pour me retrouver.
Mais dites donc, l'enfance a été un véritable péril pour vous, Amélie. D'ailleurs, Amélie, c'est pas votre nom, c'est pas votre prénom.
C'est ainsi qu'on m'a toujours appelée, mais c'est vrai que ce n'est pas le prénom qui figure sur ma carte d'identité pour des raisons familiales sans grand intérêt.
Mais pourquoi on vous a appelée Amélie, alors ?
Parce que c'est ainsi que mes parents souhaitaient m'appeler, mais il y avait un interdit sur ce prénom parce que la jument de l'arrière-grand-père s'appelait Amélie.
Ah, déjà les histoires d'arrière-grands-parents.
Ah, la famille, c'est toujours quelque chose de pesant.
Qu'avez-vous reçu en cadeau d'anniversaire à l'âge de 12 ans ?
J'ai reçu un éléphant, un véritable éléphant, mais nuançons tout de suite, un éléphant pendant 24 heures. Je vivais alors au Bangladesh, où les éléphants ne sont pas choses si rares, et il y avait possibilité de louer un éléphant pour 24 heures. Ça a été le cadeau de mes 12 ans pendant les 24 heures où cet éléphant était mien. Je n'ai pas quitté le dos de l'éléphant. C'était formidable. J'ai pris mon bain sur l'éléphant. L'éléphant a pris son bain en même temps que moi. C'était le tuyau d'arrosage. Le gâteau sur l'éléphant. J'ai dormi sur l'éléphant, etc.
Qu'avez-vous fait à New York quand vous étiez une jeune fille et quand vous avez décidé d'aller y vivre ?
Oh, j'ai fait bien des choses. Là, je ne sais même pas sur quoi porte votre question, vu que je...
Votre vocation ratée, celle d'étoile.
Oui, j'aurais voulu, c'est vrai que je voulais devenir danseuse étoile, ça n'a pas marché du tout.
Ben pourquoi ?
Écoutez, j'ai un grand nombre de carrières ratées à mon actif. Je suis une japonaise ratée, une danseuse étoile ratée, une martyre ratée. Mais tout ceci fait un écrivain belge d'expression française plus ou moins réussi.
Pourquoi aimez-vous tant la grammaire française ?
Mais il me semble que quand on pratique un art, on aime les techniques de cet art. La langue française est extraordinairement bien organisée. Sa syntaxe est très compliquée et en même temps très précise, permet d'exprimer des nuances, mais sans limite. Donc moi, quand je rencontre des écrivains qui prétendent ne pas aimer la grammaire, je me dis soit ils se fichent de ma gueule, soit ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Gide dit que le français est un piano sans pédale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que le français permet des nuances vraiment à l'infini, des nuances bien plus fines que celles que peuvent permettre une pédale.
Qu'est-ce qu'un adverbe pour vous dans la langue française, Amélie Nothomb ?
Alors, l'adverbe a en linguistique une définition beaucoup plus large que celle de ce mot terminé par M-E-N-T. Un adverbe, c'est tout ce qu'il y a de trop dans le langage. C'est tout ce qui vient s'interposer entre la force du verbe et l'énergie du sujet.
La musique est-elle une forme d'écriture ? Et l'écriture s'apparente-t-elle à la composition d'un morceau de musique ?
Mais bien évidemment, moi j'écris parce que malheureusement je suis incapable de composer. Je place la musique infiniment plus haut que la littérature. Malheureusement, je suis incapable de composer de la musique, donc j'écris des livres.
Oui, mais vous pouvez en écouter.
J'en écoute
énormément. Ce dont vous ne vous privez guère.
Ce dont je ne me prive pas.
Écrivez-vous en écoutant de la musique ?
Surtout pas, parce que ça moucherait mon son. Qui n'est pas très fort, c'est quand j'écris ma musique, c'est de la toute petite musique. Toute musique que j'écouterais serait forcément plus forte et je n'entendrais plus la musique de ma phrase.
Alors on fait de vous une écrivaine prolixe, ce qui est la réalité, mais on fait de vous quelqu'un qui avait de l'inspiration sans cesse. Or je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça vient ou ça vient pas, mais il y a des jours où ça vient pas.
Il y a des jours où ça vient pas, mais ces jours-là, j'ai trouvé une technique que je vous confie, parce que pourquoi tout le monde n'en tirerait-il pas parti ? les jours où ça vient pas, je fais dans le vide le geste d'écrire. C'est-à-dire que je fais exactement le geste du sourcier avec sa baguette qui cherche une source. Et ça finit toujours par marcher. Donc ça me donne l'air d'une débile mentale profonde puisque je suis là en train de tracer des mots dans le vide. Eh bien, ce geste finit toujours par accoucher d'une inspiration.
Et le bâton, c'est le stylo.
Le bâton, c'est le stylo, exactement.
Pourquoi vous obligez-vous à vomir tous les matins ?
Ah non, mais c'est pas du tout. Vos informations là sont inexactes.
Ah, plus exactement, pardon, Aminie.
Je m'empêche de. Je bois tous les matins à jeun un demi-litre de thé beaucoup trop fort, ce qui me donne en effet envie de vomir. Mais justement, je dois m'empêcher de le vomir pour que je garde l'énergie de cette théine. Donc, je suis devenue experte en technologie pour s'empêcher de vomir.
Combien d'années finalement avez-vous passer à l'intérieur de l'éducation scolaire, parce que en raison des circonstances familiales et du métier de diplomate de votre père, vous n'avez pas toujours été à l'école. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'autodidacte à l'intérieur de votre itinéraire.
Et en gros, je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans et après, j'ai fait ce qu'on appelle des cours par correspondance avec la métropole, parce qu'en effet, mon père était posté dans des pays où il n'y avait plus d'école, je pense au Bangladesh, à la Birmanie et au Laos. Pays passionnant, mais en effet, où la scolarisation posait de vrais problèmes. Et du coup, on peut dire qu'à partir de mes 11 ans, j'ai été autodidacte, ce qui aboutit à des choses tout à fait paradoxales, puisque vivant dans le sud-est asiatique où mes parents étaient postés, je me suis prise d'une passion éperdue pour le grec et le latin. À 16 ans, j'avais tellement fait de latin que je le parlais.
Ah ouais? Et là, vous l'avez oublié ou pas?
C'est-à-dire que je ne l'ai pas oublié, mais quand j'essaye de parler latin, c'est plutôt du japonais qui vient, ce qui est un peu gênant.
Ah bah ça doit être intéressant, c'est une nova langue. D'ailleurs, vous êtes traduite en espéranto, hein, je vous signale.
Je suis traduite en espéranto et je suis traduite en 46 langues, dont des langues en effet très improbables.
Et donc ça vous plaît, cette idée-là?
Oh oui, j'aime bien. Je peux pas tout contrôler. Je sais que certaines de mes traductions sont extrêmement douteuses. Mais j'aime bien l'idée quand même.
Vous êtes diplômée de philologie romane, je crois.
C'est ça, ce qui ne sert à strictement rien d'autre qu'à devenir professeur de philologie romane, ce qui n'a jamais été mon ambition. Mais être philologue est... C'est très intéressant. C'est le diplôme de Nietzsche. Nietzsche était philologue. Qu'est-ce que la philologie ?
Mais il a enseigné, hein ?
Il a enseigné. Inutile de vous dire que Nietzsche a quelques longueurs d'avance sur moi. La philologie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les sciences qui concernent le langage, aussi bien sous l'angle technique que sous l'angle littéraire, que sous l'angle historique et philosophique. Il n'y a pas de meilleures études, je trouve pas d'études plus complètes que la philologie. En France, on a tendance à faire soit lettres, soit linguistique. C'est pas dénué d'intérêt, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui manque.
C'est en quittant le Japon pour la seconde fois, puisque la première fois vous y étiez avec vos parents et la seconde fois vous avez décidé d'y revenir seule.
Oui.
Et c'est en quittant le Japon pour la seconde fois que dans ce retour à l'Occident, vous avez commencé à écrire. Pourquoi et comment ?
C'est-à-dire que j'écrivais déjà auparavant, mais auparavant, je n'avais pas du tout l'intention de montrer mes gribouillages à qui que ce soit. Je voulais devenir une véritable japonaise. C'était ma grande ambition. Et puis, lors de mon retour au Japon comme jeune adulte, j'ai prouvé à quel point j'étais incapable d'être japonaise. Donc, je suis devenue une japonaise ratée.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire que j'étais incapable aussi bien de travailler dans une entreprise japonaise que de me marier avec un japonais, ce qui aurait fait de moi une japonaise possible.
Mais vous viviez avec un beau jeune homme japonais.
Je vivais avec un beau jeune homme japonais. Je travaillais dans une magnifique entreprise japonaise. Mais je ne sais pas dans lequel des deux domaines j'ai été le plus exécrable. Donc finalement, je me suis enfuie, ce qui était au point où j'en étais arrivée, la seule attitude décente. Je suis retournée...
Par désespoir ?
Par le sentiment profond de mon échec. À ce moment-là, j'avais 23 ans, je suis rentrée en Belgique. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, je me suis dit, mais après tout, tu es déjà tombée si bas en tant que japonaise ratée que de quoi as-tu encore peur ? Maintenant, tu peux montrer tes manuscrits aux gens parce que tu es déjà ridicule.
Et c'est comme ça que ça a commencé.
C'est ça. C'est
dès le premier. Hygiène de l'assassin, je crois.
Hygiène de l'assassin qui était en fait le 11e roman que j'avais écrit et que j'ai osé montrer en l'envoyant à Paris à deux éditeurs. Le deuxième l'a accepté. Il est toujours mon éditeur aujourd'hui.
Je vous propose d'écouter la voix de Salvador Dali. Il va parler d'un sujet important puisqu'il va parler de Dieu. C'est une archivina du 4 janvier 1971.
Je me suis dit pour faire un sujet qui soit court... L'unique, ça peut être Dieu. parce que lui nous avait habitués à une vitesse extraordinaire, puisqu'il a fait tout ce qui existe, et toute la matière existante et tout l'univers en 6 jours. Alors moi, je peux parfaitement me permettre de faire Dieu en 5 minutes. Surtout donner la chance, il faut que je touche le bois parce que cette chance, il faut que jamais qu'il m'abandonne. J'ai trouvé l'année dernière que justement Dieu peut être fait en 5 minutes à cause qu'il est contre l'opinion du plus grand parti des philosophes et des cosmologues. Dieu est très petit. Premièrement, il est très petit et après, il n'est pas intelligent. Ce qui est déjà un grand avantage. Parce qu'évidemment, l'intelligence, comme tout le monde sait, c'est une maladie, une infirmité de l'être humain. Tandis que Dieu, qui est celui qui a tout créé et qui est tout puissant, il ne pourrait pas se permettre une maladie des plus misérables des hommes. Maintenant, au point de vue dimension, vraiment, si on avait un maître de Dieu, c'est le maximum qu'on peut lui accorder.
Voilà.
J'adore.
Dieu de Salvador, il est tout petit, il n'est pas très intelligent.
Bon, ce qui est
formidable
avec Dalí, c'est que quel que soit le sujet, il se place devant. Donc, quand on lui parle de Dieu, aussitôt, il se compare à Dieu, et évidemment, tout à fait à son avantage.
Vous êtes laïque. De religion, vous parlez guère.
Alors, c'est-à-dire que j'appartiens à la famille la plus catholique de Belgique, donc j'estime que je suis tombée dedans quand j'étais petite et qu'il est inutile d'ajouter quoi que ce soit.
De désapprendre, de continuer à apprendre, d'être élevée dans la foi, vous a conduit où ? À une forme de croyance au mysticisme, peut-être.
Je suis une mystique sans religion. Appartenir à une religion me paraît quand même terriblement limitée. Tandis que la verticalité pure et simple, et surtout la verticalité intransitive, ça c'est très intéressant.
Donc vous croyez au chamanisme, aux esprits dans la nature, à la possibilité de la transe, à la fusion avec l'univers, nous, petit homme.
Mais c'est une possibilité, je l'ai maintes fois explorée, et j'espère pouvoir l'explorer encore.
Alors oui, parce que vous allez, je crois que c'est peut-être pas un secret, hein. Vous
en
pouvez
Amazonie,
en parler.
Oui.
Alors, c'est extraordinaire ce que vous vivez chaque année. Alors en raison du Covid, vous n'avez pas pu le vivre ces derniers temps.
C'est vrai que je n'ai pas pu y aller depuis 2018 et je ne sais pas du tout quand on pourra y retourner. Il s'agit moins de se protéger soi-même que de protéger l'Amazonie. Les Indiens d'Amazonie sont très isolés, ils ne sont pas exposés aux mêmes maladies, ils n'ont pas les mêmes anticorps que nous, et je sais que le Covid est déjà présent dans la forêt amazonienne, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je n'ai certainement pas envie d'empirer cette situation.
Et qu'allez-vous faire chaque année, là-bas ?
Ah, ben, quand, du temps béni où je pouvais y aller, je passais 3 semaines avec les Indiens au fin fond de la forêt amazonienne, et je participais aux transes.
Pourquoi 3 semaines ?
Oh, parce que c'est un minimum. Il faut respecter. Il y a des sas de décompression. Puis le voyage est tellement éprouvant parce que vous savez le voyage se termine en pirogue et puis en marche dans la boue, etc. Que franchement y aller pour moins de 3 semaines, ce serait vraiment du masochisme.
Cette expérience nourrit-elle votre mode de vie d'écriture, d'écrivaine ?
J'ai essayé, mais ça marche pas. C'est-à-dire que le seul manuscrit que j'ai pu, comment dire, retirer est un bien vilain verbe, adapter, traduire de cette expérience, m'a été refusé par la maison Albin Michel pour illégalité. Donc, je ne pense pas que ce soit. En fait, c'est pas le but. Je fais pas du tout ça pour avoir des idées. Je fais ça parce que ça vaut en soi.
L'écriture est-elle un mode de dédoublement de vous-même? J'imagine que dans les transes, vous êtes d'autres personnes que vous-même aussi. Vous oubliez qui vous êtes.
Mais bien sûr, c'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que le dédoublement. C'est un principe de dilution dans l'univers qui est extrêmement fécond. C'est vrai que, comme être vivant, j'en suis réduite, comme tout un chacun, à une identité. Alors que, quand on écrit, toutes les identités deviennent possibles et même obligatoires.
Je crois savoir que dans votre existence, pas dans votre écriture, mais dans votre existence, l'amitié de votre sœur est une sorte de colonne vertébrale.
C'est très vrai. Le plus grand privilège de ma vie est d'être la sœur de Juliette Nothomb, ma grande sœur. Nous avons longtemps été très isolés pour des raisons géographiques, va-t-on dire.
Et vous avez vécu dans la même chambre jusqu'à l'âge de 17-18 ans.
Jusqu'à mes 17 ans, j'ai dormi dans la même chambre que ma sœur et ça a été une expérience formidable. On a tout partagé pendant tant d'années et maintenant qu'on ne vit plus ensemble, même plus dans la même ville, je continue de... La première personne que j'appelle chaque matin, c'est ma sœur Juliette. Je ne vais même pas dire qu'on se dit tout. C'est plus fort que ça. Avoir besoin de se dire tout, c'est finalement le signe d'une fusion imparfaite. J'ai plutôt besoin d'entendre le son de sa voix pour savoir comment elle va.
Vous savez vous relire ?
J'ai beaucoup de mal. Je le fais parce que c'est obligé pour continuer, pour ne pas faire de fausses notes dans la continuation de son écriture, mais j'ai beaucoup de mal à me relire.
Qui corrige vos manuscrits et sont-ils corrigés ?
Ils ne sont pas corrigés. Je les apporte pas tous. J'apporte un manuscrit sur 3 ou 4 à mon éditeur. Mais à ce moment-là, ça passe ou ça casse. Mon éditeur a tout à fait le droit de me refuser un manuscrit. Ça lui est arrivé. Mais par contre, s'il l'accepte, j'estime qu'il peut l'accepter en l'état.
Vous êtes une inventeuse de mots, Amélie Nothomb. Dans certains de vos livres, notamment dans le dernier, mais dans des précédents aussi, je crois que dans chacun de vos livres, il y a des inventions de mots. Pourquoi ?
Mais il peut arriver qu'un mot manque. Je me souviens avoir inventé le mot lisseté parce que l'adjectif lisse existait sans qu'aille le substantif qui aille avec. Le mot listé m'est paru indispensable, donc je l'ai inventé. C'est ce qu'on appelle une licence poétique, mais c'est comme ça que le langage progresse, donc ce principe est vieux comme le monde.
Je n'oublie pas que vous êtes académicienne.
En Belgique, je fais.
C'est pas la peine de le préciser, académicienne, point.
C'est vrai, vous avez raison.
Parce que la Belgique peut influencer la grammaire et la nature du français lui-même, de la langue française.
Mais je suis bien de votre avis. Et s'il y a bien, par exemple, un mot belge que je voudrais introduire en français, c'est l'adjectif jouette. En français, en Île-de-France, on n'a que ludique. Ludique n'est pas suffisant. Le jouette, ça signifie quelqu'un qui joue avec tout. J'aime beaucoup le mot jouette. Un enfant jouette, un homme jouette. Il faut absolument introduire le mot jouette en français de France.
Vous dites, Amélie Nothomb, que vous êtes une japonaise ratée. Cependant, vous êtes une lectrice accomplie. Et dans votre lecture, j'imagine qu'il y a cet écrivain qui s'appelle Mishima. Dois-je rappeler qu'il est l'auteur du Tumulte des Flots, du Marin rejeté, du Pavillon d'or et de bien d'autres. Dois-je rappeler aussi que sa mort tragique en 70 a illuminé d'un regard rétrospectif toute son œuvre. Je voudrais vous le faire écouter. Il va parler de la brutalité et de l'esprit guerrier des Japonais. C'est une archive INA du 25 novembre 1970.
On perçoit facilement les deux aspects contradictoires de la culture et du caractère japonais. Élégance et brutalité, deux traits de caractère parfois très imbriqués. Notre brutalité, je pense, est liée à notre intense émotivité. Elle n'est jamais automatique, systématique, comme chez les nazis. Je crois que notre brutalité trouve son origine dans la féminisation de l'apparence et que notre élégance résulte d'une tension latente. Parfois, nous sommes trop préoccupés par notre personnalité, notre goût pour l'élégance, notre sens de la beauté, voire notre penchant sadique. Quelquefois, cela nous lasse, et alors nous explosons pour nous libérer. Ainsi, après la guerre, cette brutalité a été totalement masquée, mais je crois que ce n'était qu'une dissimulation. D'ailleurs, je n'aime pas que la culture japonaise soit seulement représentée par les arrangements de fleurs, tel un symbole d'une culture dédiée à la paix. Nous avons gardé un fort esprit guerrier encore aujourd'hui.
Nous venons d'entendre la voix de Mishima. C'est assez bouleversant parce que cet entretien a été accordé quelques mois avant la mort, enfin le suicide rituel des Japonais. Quand Mishima parle de cette élégance, de cet amour de la beauté, de cette féminisation aussi de la société, est-ce que vous souscrivez à vos propos ? Vous dites et vous l'avez redit tout à l'heure, que vous étiez une Japonaise ratée. Moi, je crois que vous êtes encore une Japonaise, encore aujourd'hui, et qu'à l'intérieur de votre écriture et de votre démarche d'écrivain et de votre statut d'écrivain, eh ben, il y a quelque chose de profondément japonais.
Mais je suis d'accord avec vous, dans l'extrême civilisation et l'extrême tension si bien décrite par Mishima, je retrouve quelque chose qui est de mon monde. Je ne prétends pas un instant avoir l'élégance d'un écrivain japonais, mais j'aspire à une forme de stylisation qui en vient certainement. La cruauté de mes personnages est une cruauté toute japonaise. C'est la première fois que j'entendais Mishima parler anglais. C'est très troublant. Il a une espèce de ton narquois en anglais que je ne lui connaissais pas, qui met exceptionnellement mal à l'aise.
Quels sont les auteurs qui nourrissent votre imaginaire et avez-vous besoin d'être nourri ?
Mais tout le monde a besoin d'être nourri. Un écrivain qui ne lirait pas serait juste un menteur ou alors un très mauvais écrivain. Tous. Je vais vous dire, je me nourris de tous les écrivains. Là, je suis en train de lire Ernst Jünger sur les falaises de marbre. Mais je tremble de beauté. C'est tellement beau quand je lis ce livre. Je me nourris abondamment. Alors, quant à savoir quel est le processus de digestion, là encore, faut
et
pas...
Et de être... choix, parce que comment êtes-vous tombé sur Ernst Jünger?
C'est le pur hasard. Je crois qu'on est choisi par les livres. Je ne suis pas entrée dans une librairie en disant « Tenez, je veux lire les falaises de marbre d'Ernst Jünger, livre dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est une lectrice qui m'a offert ce livre. Et ça, c'est un excellent canal du destin. Et ce livre me fait trembler d'émotion tellement c'est beau. »
Trembler, vous aimez bien ce mot, hein.
Mais je suis un être frémissant.
Alors, je voudrais vous faire écouter la voix d'un écrivain qui vous a beaucoup nourri, qui apparaît d'ailleurs... dans les pages de ce nouveau roman-récit qui s'intitule « Premier sang », c'est Georges Bernanos, il va parler du bonheur. Et c'est un extrait de sa conférence à Genève en 1946, Georges Bernanos.
Avant d'essayer de rendre l'homme heureux, de l'orienter vers le bonheur, il serait bien nécessaire de s'arranger pour qu'il puisse être malheureux sans être en même temps grotesque. Si le malheur de l'homme n'est pas surnaturel, n'a pas dans le surnaturel son principe, l'excès même de ce malheur risque de le rendre comique. Si l'histoire de ce monde prenait fin cette nuit, après ma conférence, bien entendu, par quelque accident de laboratoire, eh bien l'histoire du monde finirait un peu comme une mauvaise pièce, une pièce bâclée, ou pire encore, une pièce si mauvaise que le public envahit la scène, assomme les acteurs, brise les lustres et fiche le feu au théâtre. Encore une telle comparaison exprime mal l'absurdité profonde, substantielle des événements qui nous accablent de leur dimension et de leur poids. Ce qui fait dire à plus d'un petit cancre, non sans une naïve fierté, ils sont à l'échelle de la planète, comme le serait n'importe quel cataclysme universel. Ils seront même peut-être demain à l'échelle de notre système solaire tout entier, si la désintégration en chaîne fait par hasard de la Terre et de la Lune un nouveau soleil capable de modifier les conditions de vie sur les planètes voisines. Ces événements sont formidables, mais leur importance réelle, leur importance au regard de l'esprit, n'est nullement en rapport avec leur masse. Une telle disproportion exciterait même le rire. Selon des lois bien connues, si l'énormité de la caricature ne glaçait le rire sur les lèvres.
Nous venons d'entendre Bernanos, donc c'était en 1946, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il parle encore de bonheur, Amélie Nothomb.
C'est très troublant là aussi, parce que je ne peux pas imaginer que ce soit vraiment sa voix. Je me dis que les enregistrements de l'époque devaient quand même pas mal déformer les voix. Cette voix ne va pas avec son écriture. Et ressemble un petit peu trop à toutes les voix des enregistrements de l'époque. J'imagine Bernanos avec une voix beaucoup plus grave que celle-là. Mais l'éloquence est là, ça on l'entend, c'est une éloquence datée. Mais enfin, c'est remarquable de parler comme ça.
Que vous a apporté Bernanos ?
justement l'intransitivité, le principe d'intransitivité qui est à la base de ma façon d'écrire, c'est-à-dire une phrase centrée sur le verbe au grand mépris de tous les adverbes, adverbes au sens large, c'est tout ce qui n'est pas le verbe. Ça me vient de Bernanos. C'est la lecture assidue de Bernanos m'a appris qu'il fallait employer les verbes au sens absolu. Il fallait centrer ces phrases sur le verbe.
Chaque phrase de vous s'organise autour de l'intensité du verbe.
Exactement.
Et vous commencez par le verbe et vous assemblez autour, avant et après.
C'est très difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a la contrainte du verbe, mais il y a aussi la contrainte phonique. Donc, il y a un mélange extrême d'instinct.
Donc vous lisez à haute voix ce que vous écrivez?
Non, parce que j'ai le malheur d'entendre ma voix quand je parle, et ma voix n'est pas du tout l'instrument auquel je m'attends et que je recherche. Heureusement, j'ai à l'intérieur de ma tête, j'ai un autre instrument qui est une voix autrement grave, et c'est avec cette voix-là que j'essaye mes sons. Donc je parle ma phrase dans ma tête avec la voix caverneuse que je me sens à l'intérieur pour la faire jaillir, pour entendre son son exact qui n'est pas du tout celui de cette pauvre voix.
Et la langue, notons, elle sort n'importe quand. Elle est toujours là.
Ma foi, je
comme dans une grotte qui attend d'être ouverte, quoi.
Et c'est pas un tel jaillissement, vous savez. C'est plus de l'ordre du suintement. C'est parfois très difficile de la faire jaillir. Mais disons que si je me montre disponible, et j'essaye tous les jours de me montrer disponible, je peux obtenir tous les jours ce suintement.
Marguerite Duras disait que chacun d'entre nous pouvait en écrire. C'est le terme qu'elle utilisait, à condition qu'on tombe dans le puits noir de l'arrière-conscience. Êtes-vous d'accord là-dessus?
Ah, c'est tellement génial. Oui, et il faut trouver l'itinéraire de ce puits noir. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Tellement souvent, je reçois des manuscrits. Mon Dieu, c'est terrible de recevoir un manuscrit d'un jeune auteur ou d'un pas jeune auteur qui sollicite son avis. Et la seule chose que je peux voir quand je reçois un manuscrit, c'est si oui ou non celui qui a écrit ce manuscrit ou celle qui a écrit ce manuscrit a trouvé le trou noir de cette après-conscience. C'est très rare les gens qui l'ont trouvé. Hein. Et je comprends, c'est tellement horrible en fait de le trouver.
Donc c'est horrible d'être écrivain.
Ben, c'est le plus beau métier du monde, mais les gens n'imaginent pas le prix à payer.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Amélie Nothomb. Alors là, je vais vous laisser le dire parce que je vais écorcher. Netzwerk de
Klangs Karussell. C'est berlinois. C'est magnifique.
Turn away, 'cause if your eyes on the ground, when the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Like rain.
Ça donne envie de danser, Amélie.
Il n'y a rien qui donne autant envie de danser que Klang's Carousel.
J'avais vous aimez danser, vous ?
Mais non. Mais j'ai été piégée, c'était à Berlin et j'ai dansé toute la nuit.
Ça vous arrive souvent, c'est pareil que
mais
la transe.
Mais pas du tout, ça m'arrive jamais, mais c'est vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai tellement accroché à cette musique, une musique capable de me faire danser moi toute la nuit, à mon grand âge. Je trouve que c'est une musique exceptionnelle.
Votre grand âge, non mais on rigole là.
Non, pas tellement, ça commence à chiffrer.
Vous vous sentez vieille ?
Non, mais bon, quand je vois ma carte d'identité, je me dis quand même, ma vieille, ça fait quelques années que t'es sur Terre.
Ben et alors ?
Non, c'est bien, c'est toujours ça de prix.
Vous aimez vieillir ?
Je n'ai pas d'opinion sur la question.
Alors, de la mort, nous allons parler, parce que ce livre, évidemment, tous vos livres sont singuliers, puisqu'ils procèdent de différents registres littéraires, de différents scénarios, à la fois temporels, géographiques, psychiques, ils racontent tous des histoires. C'est peut-être pour cela que vous êtes devenue la feuilletoniste la plus populaire de la seconde moitié du XXe et du XXIe siècle. C'est parce qu'il y a un côté histoire très bien raconté, avec un côté Hitchcock. Mais celui-ci, je trouve, donc, qui s'intitule « Premier sang », déjà le titre, est d'une forme particulière. Et si on l'ouvre sans avoir rien lu sur votre livre, Amélie Nothomb, ce qui est difficile en ce moment, parce que vous avez une presse dithyrambique, mais enfin, si on l'ouvre, moi j'aime bien lire les livres et ne rien savoir dessus, ne pas avoir d'opinion préconçue, d'idées qui recouvrent mon innocence de lectrice, eh bien, il faut qu'on se coule dans le livre pour comprendre que ce n'est pas de vous dont il s'agit et que vous allez raconter l'histoire de votre père. Pourquoi ce procédé narrative, vous nous plongez dans le bain d'enfance mémorielle de la plus haute enfance de votre propre père.
Mon père avant moi. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que j'ai perdu mon père en 2020, que ça a été un très grand choc, que je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles à cause du confinement. Et du coup, le choc a été si grand que je n'ai pas vu d'autre solution que de ressusciter mon père. Et quelle façon littéraire de ressusciter mon père ? Eh bien, le faire parler à la première personne du singulier. C'est comme si j'écrivais l'autobiographie de mon père avant moi. C'est un livre écrit avec un « je ». C'est mon père, lors de sa première rencontre avec la mort, quand il a été devant le peloton d'exécution à l'âge de 28 ans, qui tout à coup est replongé dans sa toute petite enfance et raconte sa jeunesse. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon père était vraiment le plus grand héros de roman qu'on puisse imaginer.
Et vous ne l'aviez pas perçu auparavant ?
Mais je vous jure que non. J'ai vécu avec lui un grand nombre d'années. J'aimais mon père, mais je ne voyais pas qu'il était une créature à ce point littéraire. Il a fallu que je l'écrive pour que je m'en rende compte.
Alors, votre père avait eu une histoire avant la sienne, familiale aussi, très hantée par la mort. C'est un personnage de tragédie, mais dont l'existence a consisté à être une personne qui combattait la mort de toutes les manières possibles.
Oui, c'était un très grand vivant. Il a vraiment fait face à la mort lorsqu'à l'âge de 28 ans, il a été pris dans la plus grande prise d'otage du XXe siècle. C'était au Congo qui venait d'obtenir son indépendance. C'était la fameuse prise d'otage de Stanleyville. En tant que jeune consul de Belgique de 28 ans, il a été le négociateur pour défendre la vie de 1600 personnes. Et il a tenu pendant 4 mois, en parlant continuellement pendant 4 mois, à sauver la vie de 1500 personnes.
Manifestement, c'était un homme très modeste et qui ne parlait pas de ses hauts faits.
C'était au-delà de la modestie. Non seulement il était prodigieusement modeste, mais même il ne disait aucune émotion. Par exemple, il a consacré un livre à son expérience d'otage, dans lequel il raconte tout, y compris le peloton d'exécution devant lequel il s'est trouvé. Il ne dit même pas est-ce que c'était désagréable ou que peut-être il a eu peur. Non, il vous raconte ça comme ça, comme la dernière plaisanterie.
En lisant votre livre « Premier sang », Amélie Nothomb, on a l'impression que vous savez beaucoup de choses sur l'enfance, l'éducation, la perception, la gamme de sentiments, les émotions, les adversités auxquelles votre père a été confronté. Avez-vous mené une enquête ou êtes-vous laissé porter par votre propre récit familial ?
C'est vraiment un mélange des deux. C'est vrai que mon père parlait très peu, mais je l'ai beaucoup observé, il m'a toujours beaucoup intéressée. Et après tout, je suis sa fille. Et il paraît que de ses trois enfants, Il paraît que je suis celle qui lui ressemble. Donc, ce qu'il n'avait pas dit, à savoir ses sentiments, ses émotions, je l'ai tiré de mes propres émotions. Puisqu'on m'a tant dit que j'étais le sosie de mon père, est-ce que je n'avais pas légitimité à tirer mes émotions des siennes et à interpréter ses émotions avec les miennes ?
Nous avons retrouvé la voix de votre père. Puis-je la passer ?
Oh,
ça
oui.
va ne pas vous faire trop d'émotions ?
Ça va beaucoup me plaire.
Donc nous allons écouter la voix de Patrick Nothomb à propos de la catastrophe de Fukushima. C'est un extrait d'un journal de la télévision belge. C'était le 17 mars 2017. Patrick Nothomb.
Alors le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour malheureusement. Hein. Et il y a toujours ce risque de catastrophe nucléaire. Hein.
Il s'alourdit et on parle d'environ 4000 morts et d'un nombre incalculable de disparus. Dites-vous bien, c'est ça la chose horrible. Que quand on parle de 100 disparus, ça veut dire qu'il y aura au moins 98 ou 99 morts parmi eux. Vous trouverez parfois un miraculé qu'on sortira des ruines, mais disparu, ça peut être considéré hélas comme mort. Donc je crains très fort qu'on dépassera largement les 10 000 victimes cette fois-ci.
Vous pensez que le Japon se relèvera facilement de cette catastrophe ?
Le Japon se relèvera. J'ai vu Kobe 2 jours après le séisme de Kobe en 95. Je suis allé pour tâcher de retrouver tous mes compatriotes, voir si tout le monde était en vie, etc. Et j'ai vu une ville absolument dévastée parce que le tremblement de terre, l'épicentre du tremblement de terre était à 15 kilomètres d'une ville d'1,5 million d'habitants et la ville était vraiment endommagée de façon épouvantable. Il se fait que 8 mois plus tard, j'y suis retourné pour une mission commerciale et je puis vous dire que la ville était intacte. Tout avait été rebâti. Donc là, c'est le grand espoir, c'est que les Japonais sont les Japonais, ce sont des gens qui restent impassibles dans les circonstances les plus terribles, courageux et honnêtes, et en plus qui ont une capacité de rebondissement. Et ce n'est pas encore fini, on ne sait pas encore comment ça finira, oui. Mais je puis vous dire qu'après, une fois la catastrophe terminée, ils reconstruiront très vite.
Nous venons d'entendre la voix de votre père, on devine à la voix.
Ça fait beaucoup d'effet.
Quel effet ?
Je viens de penser, je ne sais pas ce que vous penserez de ma formule, mais je trouve que papa parle comme un Japonais qui aurait l'accent belge. C'est bouleversant.
Il est très calme.
Il est très calme, il a une espèce de sérénité bouddhique. Cet homme aimait tellement profondément le Japon. Il y a eu un coup de foudre tellement violent entre le Japon et lui, et un coup de foudre réciproque. Les Japonais aimaient profondément mon père. Ils se sont épris de l'espèce de sérénité, de classe et de douceur de mon père. C'était fabuleux, l'osmose qui existait entre mon père et le Japon.
Donc, vous ne faites que répéter l'histoire familiale avec votre amour pour le Japon.
Je serais bien incapable. Oui, pour l'amour, oui. Mais pour l'héroïsme, j'en serais totalement incapable. Moi, je négocie avec des rebelles, j'en serais incapable.
Mais la capacité de survivre, la volonté à
oui,
tout
la,
prix...
Ça, oui, la volonté de survivre, je pense que je l'ai très très fort. Mais la capacité d'héroïsme de mon père, bon, je n'ai jamais été au pied du mur, mais honnêtement, j'en doute fort.
Parlons de la structure de votre dernier livre, Premier sang. Déjà, c'est un drôle de titre par rapport au vocabulaire et à la grammaire nothombienne, si j'ose dire. Premier sang.
Oui, c'est un titre qui s'est imposé. Bon, le sang est très présent dans ce livre. Entre autres, mon père était hématophobe puisqu'il s'évanouissait à la vue du sang, ce qui n'est pas du tout facile quand on est appelé à devenir un héros dans des circonstances sanglantes. Mais surtout, l'expression « premier sang » appartient au vocabulaire du duel. On dit « le duel s'arrêtera au premier sang » pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la mort d'un des duellistes pour obtenir gain de cause. Et après tout, c'est ce qui s'est passé avec mon père lors de cette prise d'otage. Il n'a pas été nécessaire d'aller jusqu'à la mort.
Alors, vous arrêtez la vie de votre père à un moment particulier. Ce n'est pas du tout la biographie de votre père, c'est plutôt un portrait de la construction d'une personnalité, ceux de la plus haute enfance. Et il y a une dimension très prépondérante à l'intérieur de ce livre, où vous êtes à la fois, comme souvent dans les autres livres, Amélie Nothomb, à la fois drôle, sarcastique, cruelle et en même temps compréhensive. Je veux parler de l'éducation qu'a eu votre père. Je veux parler de cette haute aristocratie belge dans laquelle il a été obligé de vivre, dans laquelle il a fallu qu'il se fraye un chemin alors que ses cousins, ses cousines ne voulaient pas de lui.
Oui, ça paraît particulièrement dingue. Donc, mon père est né en 1936. Bon, c'est ancien, mais pas tant que cela.
Alors, on a l'impression de lire livre de Jane Austen.
On a l'impression de lire du Jane Austen. Et je crois que c'est à cause du milieu. L'aristocratie belge est en effet extrêmement passéiste. Et en plus, ça se passait dans les Ardennes belges. Donc, mon père, orphelin de père, suite à diverses circonstances, à l'âge de 6 ans, est envoyé dans sa famille paternelle pour devenir un homme. Il arrive au château du Pont-d'Oie, au cœur des Ardennes belge, et découvre une véritable tribu de sauvages dans lequel il n'y a pas d'autre éducation que le darwinisme pur et simple, c'est-à-dire qu'il s'agit de survivre. Les enfants ne sont pas nourris, les enfants ne sont pas chauffés, les enfants ne sont pas lavés, ils se débrouillent. Le comble étant que, nullement traumatisé, mon père trouve ça sensationnel.
Alors que c'est lui le plus frêle, le plus chétif, le plus maigre.
C'est ça. Et qu'il, en plus, c'est un petit garçon de la ville, il est tiré à quatre épingles, il a un petit col en dentelle.
Et il a l'air d'une fille, alors tout le monde se moque de lui.
Tout le monde se moque de lui, il a des petites manières précieuses. Et au contraire, il va être fou de joie de découvrir les Huns, la horde, et va trouver à s'y adapter de façon tout à fait stupéfiante. Somme toute, c'est ce que mon père a fait toute sa vie. Mon père a passé sa vie à s'adapter à des circonstances hors normes, par exemple la prise d'otages, et finalement a très bien taillé la route.
Et vous, comment allez-vous continuer après ce livre qui s'inscrit de manière assez singulière dans votre itinéraire d'écrivain ?
Écoutez, c'est évidemment très difficile d'écrire après premier sang, mais c'est toujours très difficile d'écrire. Donc, il y a là quelque chose de paradoxalement apaisant. Et écrire est toujours à ce point au-dessus de mes forces que je me dis au point où tu en es, ça va pas être encore plus dur d'écrire après. C'est toujours follement dur d'écrire.
Et votre sœur a lu votre bouquin ?
Oui, ma sœur, ma mère et... Ça les a fait réagir très fort, bien sûr. Elles ont eu l'impression, l'une, de retrouver son père, l'autre, de retrouver son mari. La réaction de ma mère était la plus belle. Ma mère, qui n'en revient pas d'avoir perdu son mari. Quand je lui ai donné le livre et qu'elle l'a lu, elle répétait frénétiquement « Mais c'est Patrick ! C'est Patrick !» Dès que je participe à une émission, par exemple la vôtre, elle dit « C'est une émission sur Patrick !» Donc c'est même plus une émission sur moi, c'est formidable.
Mais c'est peut-être un livre de co-signé Patrick et Amélie, hein ?
C'est le premier livre à quatre mains dont l'un des deux auteurs est mort.
Ben oui, mais vous croyez aux fantômes, alors ça va bien, ça tombe bien.
Tout est possible.
Et je vais même terminer cette émission en lisant la note de l'auteur. Je crois que l'auteur, c'est vous.
Oui.
Mon père, Patrick Nothomb, a publié un ouvrage en 1993 aux éditions Racine, intitulé « Dan Stanleyville ». Donc, une fois terminé votre bouquin, on n'a qu'une envie, c'est de trouver le livre de votre père, celui qu'il a écrit sans vous, Amélie.
Eh oui, eh bien, ce serait une très bonne chose que tout le monde le lise.
Ben, merci infiniment, Amélie Nothomb.
Merci,
rappelle
Laura
que
Claire.
Votre livre s'intitule « Premier sang » et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Bravo, Amélie.
Le dance floor, on croit qu'elle flambe. Elle respire encore. Elle respire encore.
C'est avec Clara Luciani que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la régie technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Iris Vertanissian. Merci à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec le numéro 2 du Very Good Trip de Mishka Assayas.